Alors, comme prévu, la rencontre des dirigeants des pays de l'OTAN a commencé sur une note discordante ce matin à Bruxelles, alors que le président américain Donald Trump a reproché à ses alliés de ne pas injecter suffisamment d'argent dans leurs dépenses militaires et dans le financement également de l'OTAN. Il s'en est ensuite pris à la chancelière allemande Angela Merkel, lui reprochant d'être totalement contrôlé par la Russie en raison de sa dépendance au gaz naturel qui vient de la Russie. Je joins à Bruxelles Stéphanie Von Latke, qui est professeure agrégée d'études politiques. Elle est directrice du Centre pour la politique internationale et défense à l'Université Queen's. C'est un long titre. Elle est présentement au quartier général de l'OTAN. Bonjour, Madame Von Latke.
Bonjour, Monsieur Lacroix.
Alors d'abord, dans quel contexte s'est fait le discours de Monsieur Trump ce matin? Il était où, au juste?
Ça faisait partie d'une discussion au déjeuner et donc, par la suite, il a aussi fait véhiculer ses propos sur Twitter, comme il a l'occasion de faire.
Ah bon, d'accord. Donc, il y avait un déjeuner de des 29 dirigeants de l'OTAN, c'est ça? En fait, des 29 chefs d'État qui sont membres de l'OTAN.
Ce petit déjeuner était à huis clos, donc on n'en faisait pas partie. Oui. Les observateurs qui sont dans une tente à côté des délibérations principales. Mais il a fait une capture d'écran et on voit une vidéo sur Twitter où il y a plusieurs chefs d'État qui prennent part à ce déjeuner.
Bon. Alors, évidemment, le commentaire qu'il avait déjà fait avant de partir pour cette rencontre-là aux États-Unis, ça porte beaucoup sur le financement militaire, n'est-ce pas?
Ça parle du budget de la défense, qui est peut-être un peu plus large que les dépenses militaires. Oui. Et donc, la règle de l'OTAN, ou l'engagement qui a été pris en 2014, plus concrètement, c'est que les États membres doivent consacrer 2% du PIB au budget de la défense.
Ouais. Et lui reproche à différents pays, dont le Canada d'ailleurs, de ne pas en faire suffisamment, c'est ça?
Exact. Et c'est là où je pense qu'il y a pas mal de discorde par rapport à ce que veut dire la règle du 2%. Premièrement, c'est un engagement qui a été pris en 2014 et c'était un engagement qui s'étalait sur 10 ans. Donc, on donnait jusqu'à 2024 pour que les alliés puissent atteindre ce 2%. Donc, c'est encore un peu tôt, je pense, pour commencer à critiquer les alliés, surtout la façon dont le fait Trump, je pense, en déplaît plusieurs.
Oui, parce que on semble pas s'entendre non plus sur la proportion payée par chaque pays, entre autres pour le fonctionnement de l'OTAN. Dans un tweet cette semaine, Donald Trump disait que les États-Unis finançaient 90% des dépenses de l'OTAN, et ça semble pas être partagé par tout le monde, ce chiffre-là.
C'est ça, et puis on peut jouer beaucoup avec les chiffres, et juste si on prend l'exemple du Canada, le Canada, quand on utilise la mesure du 2%, se situe au 15e rang. Et il y a 29 pays membres dans l'Alliance. Par contre, quand on regarde le montant d'argent que ça représente, c'est à peu près 22 milliards. Et donc, si on regarde ce montant net, là, le Canada réussit à se hisser au 6e rang, tout près de l'Italie. Donc, on peut manipuler un peu ces chiffres et la façon de calculer change les rangs.
Oui. Donc, il fait un peu de... Il calcule à sa façon, Donald Trump, finalement, une façon qui l'avantage.
En fait, le 2% s'est établi depuis longtemps. Et puis, les discussions, les débats qu'on entend autour de cette règle de 2%, est-ce que c'est la meilleure façon vraiment de pouvoir mesurer la valeur des contributions des alliés? Parce qu'on peut... Disons qu'un État consacre 2% de son PIB à son budget de la défense, mais ne contribue pas un sou à l'OTAN. C'est possible, ce scénario-là.
Ouais.
Et donc, quand on regarde le top 5 et on regarde les États membres qui contribuent ce 2%, c'est pas tous les alliés nécessairement qui vont aussi contribuer aux opérations de l'OTAN. On regarde la Grèce, par exemple, elle rencontre ce fameux barème de 2%, mais elle a pas tendance à être un grand contributeur de troupes durant les opérations de l'OTAN. Alors, je pense que la question qu'il faut davantage se poser, c'est qu'est-ce qui est fait avec cet argent-là?
Ouais.
Est-ce que cet argent-là réussit à mener à des capacités militaires qui vont appuyer directement les objectifs de l'OTAN? Est-ce que les pays qui, avec leurs dépenses militaires, vont être en mesure d'envoyer des troupes pour les missions de l'OTAN? Donc, c'est là-dessus, je pense, qu'on devrait se concentrer plutôt que des listes de chiffres et de pourcentages du PIB. Mais c'est une mesure parmi tant d'autres et elle est publiée à tous les ans. Et c'est à partir de ça qu'on se crée une espèce de rang des bons alliés et des mauvais alliés. Et puis, Trump aime beaucoup cette liste. Il la suit de très près.
Exact. Bon, l'autre point assez important, je pense, dans ce déjeuner, c'est cette attaque frontale là, avec Angela Merkel, à qui il a reproché d'être captive de la Russie en raison de sa dépendance au gaz naturel russe, n'est-ce pas?
Oui, mais en fait, c'est assez typique, là, si j'ose dire, de Trump. Il nous présente une sorte de diplomatie que je caractériserais de toxique, en fait. Et on a vu ça au G7. Le G7, c'était le Canada qui en était la cible. Cette fois-ci, c'est l'Allemagne. Dans les lettres que Trump a envoyées aux alliés pour les critiquer face à leur dépenses militaires et leur budget de défense, même la Grande-Bretagne s'est fait pointer du doigt. La Grande-Bretagne qui rencontre ses objectifs du 2 %.
Ouais.
Donc, c'est vraiment difficile à prédire son comportement. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'anxiété politique autour du style de diplomatie que Trump a décidé de prendre.
Est-ce que le fait que Donald Trump va rencontrer dans quelques jours, en fait, je pense que c'est le 16, si je ne m'abuse, va rencontrer Vladimir Poutine à Helsinki, est-ce que ça vient teinter justement son positionnement face à l'OTAN?
Je pense que ce que les alliés n'apprécient pas, c'est qu'on a parfois l'impression que Trump est plus poli avec ses adversaires qu'il ne l'est avec ses alliés. Et donc, je pense que c'est ça un peu qui mine la confiance au sein de l'Alliance en ce moment. Mais je dirais que le comportement de Trump a eu un effet assez intéressant. D'après ce que j'ai pu voir depuis ce matin à Bruxelles, c'est vraiment tous les alliés, tous les représentants des alliés, les ministres, les chefs d'État, qui vraiment ont le même discours. Un discours de solidarité, un discours d'unité et de cohésion de l'Alliance. Vraiment, on chante les louanges de l'Alliance et on tient à rappeler que même si Trump crée certaines distractions, en fait, c'est une distraction majeure pendant ce sommet, revenons-en aux enjeux principaux de l'OTAN, revenons-en aux priorités, parce que le communiqué du sommet de l'OTAN, qui devrait être partagé demain, vraiment est une liste de plusieurs objectifs de l'Alliance, et c'est là-dessus que les États membres devraient se concentrer plutôt que Trump et ses tweets.
Je lisais ce matin que M. Stoltenberg, qui est le secrétaire général de l'OTAN, disait qu'il fallait, il fallait s'unir et que le mandat de l'OTAN, c'était de protéger les États membres. Donc, c'est autour de ça là, qu'on veut essayer de monter le communiqué final de demain, c'est ça?
Oui. Et puis, le secrétaire général, justement, Jens Stoltenberg, a une tâche monumentale parce que c'est lui qui doit rassembler tous les alliés et c'est lui qui doit vraiment parer avec les critiques et les désaccords pour pouvoir réunir demain tous les alliés, faire front commun et ensuite partager ce grand communiqué de l'OTAN qui va établir les priorités pour les deux prochaines années. Donc, il y a un rôle important qu'on ne doit pas sous-estimer. Dans le communiqué, on peut s'attendre à certaines déclarations assez fortes envers la Russie. Depuis 2014, dans les communiqués de l'OTAN, on parle des provocations russes, on parle de l'instabilité en Ukraine, on parle de l'annexion de la Crimée. Et en réponse à cela, l'OTAN a pris plusieurs mesures en charge pour augmenter ses capacités militaires, mais surtout relatives à sa capacité de dissuasion et de défense commune. Et ça rappelle vraiment ce qui est au centre de son mandat en tant qu'alliance, soit la défense collective.
Est-ce que les menaces de M. Trump pourraient mener à un affaiblissement de l'OTAN ou parce que, bon, à un moment donné, on évoquait même peut-être la fin de l'OTAN jusqu'à un certain point. Je ne pense pas que ce soit le cas, mais est-ce que ça pourrait mener à un affaiblissement de l'OTAN?
Oui, on a souvent parlé de la fin de l'OTAN. On en a parlé avec la fin de la guerre froide. C'est cyclique comme thématique, la fin de l'OTAN. Mais en fait, l'OTAN est bien plus qu'une alliance militaire. L'OTAN est une organisation de sécurité internationale qui est hautement institutionnalisée et qui va fêter ses 70 ans l'année prochaine. Alors, d'après moi, il y a une logique institutionnelle ici qui s'est installée et l'OTAN est là pour rester. Les désaccords et les petites tensions politiques qui se manifestent quand même fréquemment au sein de l'Alliance sont gérables. Et l'OTAN a quand même des mécanismes de discussion et de diplomatie pour être capable d'aller au-delà de ces petits désaccords et de faire progresser l'agenda de l'Alliance. Alors vraiment, quand on parle de l'Alliance, c'est pas une alliance comme les autres, c'est en fait une alliance qui est unique au monde à cause de ce niveau d'institutionnalisation.
Bon, dans les faits, je comprends qu'il y a une espèce de pause là. Qu'est-ce qui s'en vient pour le restant de la journée? Est-ce qu'ils vont se rencontrer encore une fois un peu plus tard aujourd'hui?
Il y a un souper de prévu ce soir et demain. C'est ce qu'on attend tous à grande haleine, c'est ce fameux communiqué. Alors, ceux qui suivent ces enjeux de près vont parcourir le plus rapidement possible le communiqué et essayer de le comparer au communiqué qui a été publié il y a 2 ans à Varsovie pour voir quelles sont les différences. Parfois, il y a des paragraphes dans le communiqué qui sont presque identiques aux itérations précédentes. Et parfois, il y a des changements importants au niveau du vocabulaire qui est employé. Donc, moi, ce que je dirais, c'est de vraiment porter attention à ce qui est dit par rapport à la Russie, ce qui est dit par rapport aux missions et opérations. Ça, c'est très important. Et ensuite, certaines réformes au niveau de la structure de commandement de l'OTAN qui va devenir un peu plus efficace, selon les dires du secrétaire général.
Madame Van Lettke, merci beaucoup d'avoir été avec nous, de nous avoir apporté votre éclairage.
Merci, Monsieur Lacroix, ça me fait plaisir.
Au revoir, Stéphanie. Van Lettke est professeure agrégée d'études politiques. Elle est directrice du Centre pour la politique internationale et la défense à l'Université de Queen's.